Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu,
outils, expérimentation,
productivité,
interaction, innovation,
Jeff,
Guillaume,
Seb
et Seb.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 92 de eTeachers. Salut Seb, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien, merci.
Bon,
ça,
bah
ça
écoute, t'as vu Seb, on se rapproche tranquillement de la centième, hein, va falloir qu'on y pense. Alors Jeff est pas là ce soir, mais voilà, plus que 8 épisodes, même pas 7 si on ne compte pas lui, bien sûr, avant d'arriver au numéro 100, c'est quand même une petite étape pour nous. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire quelque chose de sympa pour ce moment. Voilà, bon, dis-moi Seb, quoi de spécial ce soir au programme ?
Eh bien, ce soir, pour changer un petit peu, on a le plaisir et la chance de recevoir quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé avant qu'il ne vienne. Quelqu'un qui a travaillé avec un autre invité qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce quelqu'un, c'est David Cohen. David, bonsoir.
Salut, David. Bonsoir à tous. Salut les teachers.
Bon, écoute, on est super content effectivement de t'avoir avec nous. Comme l'a dit Seb, ça fait plusieurs fois qu'on évoque ton travail, qu'on parle de toi. Voilà, ça commence à ton nom circule pas mal sur les internets, comme on dit, dans les réseaux. Et voilà, on est content de t'avoir puisque une des particularités du podcast, c'était au départ d'alterner quasiment un épisode sur deux avec un invité. Bon, c'est absolument impossible à tenir ce rythme-là, mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un et on est content de t'avoir. Donc voilà, tu vas passer une petite avec tout, voilà.
Avec grand plaisir, c'est un plaisir partagé pour moi.
Bon, et écoute, pour commencer, j'aurais voulu rapidement que tu déclines ton identité avec quelques informations relativement simples pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'on a un auditoire qui n'est pas forcément, qui n'a pas une veille numérique éducative très tout le temps au top du top comme certains peuvent l'avoir. Donc, si tu peux nous parler rapidement de toi, où tu enseignes, ton travail, d'une manière globale, avant de rentrer un peu plus dans le détail.
Où j'enseignais alors, parce que je n'enseigne plus depuis 2 ans. Donc, moi, je m'appelle David Cohen. Alors, à la base, je suis enseignant certifié en art plastique. C'est là que je perds tout crédit, généralement. Alors, que dire ? Alors, plusieurs académies, un déploiement de tablettes en 2012 sur mon ancien collège à Grasse, puis ensuite une expérimentation biode menée dans ma discipline avec mon IAIPR Josiane Rouche et mon comparse Brice Sicard, hein, que je salue d'ailleurs. Et depuis 2 ans, médiateur numérique à l'atelier Canopée 06, donc à Nice.
Hein, D'accord.
Et puis depuis 1 an, lancement des petits fascicules, mais je pense qu'on va y revenir pendant 7 heures.
On va en revenir, tout à fait. Eh bien, écoute, super. Alors, avant justement, puisque c'est d'aller plus sur tes actualités, j'aurais voulu savoir un petit peu comment tu en es venu à travailler avec le numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi a été dès le début, hein, dans ta pratique, ou alors est-ce que c'est devenu, voilà, c'était naturel, c'est quelque chose que tu as découvert plutôt sur le tard. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes parcours, donc ça m'intéresse un petit peu de savoir comment tu as fait.
Alors, j'ai eu une vie avant d'être enseignant. J'ai été illustrateur, donc effectivement, petit à petit, je me suis mis à la tablette graphique, à Photoshop, et ça me correspondait plus trop une fois que je suis devenu enseignant, puisque le travail avec une souris, hein, même avec une tablette graphique, me posait la question justement de cette espèce de ligne qu'on a quand on travaille sur des supports traditionnels, c'est-à-dire l'œil regarde la main qui est posée sur le support. Et travailler avec une souris, ça casse un peu ce geste. Donc, j'en étais un petit peu revenu. Et puis, j'ai eu vent de l'expérimentation de déploiement de tablettes en Corrèze en 2011.
Oui.
Et du coup, j'ai monté un projet qui a été soutenu par ma hiérarchie. Et c'est tombé pile poil au moment où le Conseil Général, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, des Alpes-Maritimes voulait aussi essayer ce que ça pouvait donner en milieu scolaire. Donc, voilà, déploiement d'iPad. Et puis, j'ai décidé de ne travailler plus qu'avec ça. Et ben, j'ai pas changé mon fusil d'épaule depuis 2012. Voilà, donc du numérique tactile. Je ferai un peu la distinction entre usage informatique et numérique. Hein. Je sais que ça va en chafouiner certains, mais bon,
Pas
on fait
moi, en
pas
tout cas, je
exact,
suis vraiment d'accord avec ça.
on fait pas exactement les mêmes choses. Hein. Loin de moi l'idée de hiérarchiser les deux, mais bon, c'est quand même plus une pratique qui me correspond à la tablette. Donc voilà, et puis on est venu ensuite l'expérimentation avec l'usage pédagogique des smartphones en cours d'art plastique. Et voilà, on a continué, on a continué, on a essayé de un peu défricher avec mes collègues, et puis bah, ça a l'air de prendre, donc tant mieux.
Ok, super. Donc aujourd'hui, ton quotidien à Canopée, c'est quoi? C'est ta mission, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes journées, à part boire des cafés, comme on l'imagine bien en tant que bon fonctionnaire?
Et fumer des cigarettes, parce que c'est
Voilà.
mal.
Ah,
Alors,
très bien.
qu'est-ce que je fais? Donc, je suis médiateur de ressources et services numériques éducatifs. Donc, ma mission à l'atelier Canopée, c'est d'accompagner des projets, donc d'accompagner des équipes sur le terrain. On a par exemple un gros projet qui s'appelle Crétaville, qu'on mène sur la circonscription de Mandelieu, le Canet, avec l'IEN et toute l'équipe. Donc, Anne Cardola, hein, pour ceux qui sont un peu sur le petit oiseau bleu. Et ce projet est mené aussi en collaboration avec le Labo Lean de l'ESPE de Nice, donc Margarida Romero. Donc, c'est une petite partie. Ensuite, des formations, usage créatif de la tablette, usage vidéo, monter une vidéo. Donc, on a monté au sein de l'atelier 06, qui est vraiment un grand atelier, on a monté un petit labo de pratique où on peut venir tester, où tous les enseignants sont invités, tous les enseignants, bien entendu, du 06. Ou ceux qui sont de passage, hein, sont invités à venir tester de la nouveauté numérique et essayer de voir ensemble de co-construire et de co-designer des séquences à partir de tout cet équipement-là.
Ok, très
Et de
bien.
boire des cafés.
Bah, j'espère bien, j'espère bien.
Je pense que je vais aller boire un café là-bas, je
Eh bah
pense.
oui, il faut que tu y ailles, toi.
Voilà.
C'est
Ah
toi,
ben.
c'est ton coin, en plus, en fait, je viens de réaliser maintenant. En fait, vous êtes tous les deux dans la même académie, en fait.
Eh
Ah,
oui. On est dans la même ville, en fait.
vous êtes même dans la même ville. Ah, oui, d'accord, ok, très
Oui.
bien.
En
Et
plus.
vous connaissiez d'avant quand même un peu ou pas vous?
On s'est croisés à Écritech.
Voilà.
D'accord.
La première fois, c'était le dernier Écritech, là, le dixième. Je l'ai croisé. J'y suis allé en espérant qu'il y serait, et puis je l'ai croisé et je l'ai agressé comme
Non,
j'agresse
non,
tous
mais
les gens pour venir dans l'émission.
bon,
Voilà, de
ce n'est
façon fort
pas une
sympathique.
agression, mais tu es le bienvenu
Voilà.
à l'atelier. Avec
Mais
grand plaisir.
eh ben,
Ce
ma
sera.
foi, Seb, tu sais ce que
Voilà.
tu auras à faire. Tu vas aller en immersion à l'atelier et tu viendras nous en parler lors d'un prochain podcast, ma foi.
Avec
Hein?
plaisir. Attention,
Alors,
attention.
David, moi j'aurais voulu aborder trois choses avec toi, dans un ordre comme dans un autre. Tout d'abord, a priori, tu es de retour des rencontres de l'Orme. En tout cas, tu y es passé. Voilà.
Ah, j'y ai même travaillé puisque c'est un événement qui est porté par la direction territoriale Canopée PACA, donc faisant partie de cette direction. Tous les ateliers présents sur cette zone, c'est-à-dire oh là, le 06, le 83, le 04, le 05, le 13, le 84, j'espère que j'en oublie pas. En tout cas, j'ai oublié peut-être le complémentaire. Enfin, tous les ateliers ont envoyé leurs médiateurs pour travailler sur les parcours, accompagner, accueillir, monter, démonter. Donc effectivement, j'y étais pendant 4 jours, parce
Eh
qu'il
bien
fallait faire
voilà,
le
eh ben, écoute,
stage.
puisque tu viens de commencer à présenter, est-ce que tu peux nous débriefer rapidement sur cette édition, sur voilà, les points forts, enfin, ce que tu estimes être les points forts peut-être, et pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ces rencontres et qui souhaiteraient pourquoi pas y aller l'année prochaine?
Alors c'est assez intéressant, ça ressemble un petit peu à Éducathèque éducative, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie constructeur où on peut tester donc les dernières innovations et une grande partie qui est dédiée aux expérimentations où on accueille des classes avec les enseignants donc pour des vraies séances live. Alors moi j'étais en charge de parcours parce qu'on a mis en place Réseau Canopée a mis en place 6 parcours. Donc, sur des thématiques différentes. Moi, j'avais en charge et en co-animation avec une collègue de la DAN d'Aix-Marseille le parcours Travail Ensemble. Donc, notre mission, c'était d'accompagner, de débriefer à la fin des journées, d'accompagner donc ce groupe sur différents spots oula, je confonds avec Écritech, les rencontres de l'Orme. Donc, moi, ce qui m'a vraiment paru très, très intéressant, ce qui a drainé beaucoup de monde, c'était le grand espace Fab. Espèce de grand Fab Lab, alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un Fab Lab, mais il y avait un immense espace en plein centre qui était un espace piloté par beaucoup de monde de Réseau Canopée, pas que de PACA, mais au niveau national, où il y a eu énormément de monde et énormément d'activités sur Repenser les espaces scolaires, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu de gros ateliers robotiques, il y a eu aussi, je perds mes mots, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu beaucoup de jeux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai honte, d'escape game, pardon. Donc ça, c'était un point qui était vraiment très intéressant, il y avait toujours de la nouveauté, moi je passais toutes les heures devant, il y avait toujours vraiment des activités très intéressantes. Ensuite, il y a eu des belles conférences, notamment celle avec Margaret Romero qui était très intéressante. Il y avait aussi, alors malheureusement, j'ai pas pu, je n'ai fait qu'y passer. Il y avait la réunion de tous les incubateurs menés et pilotés par la DNE. Donc malheureusement, on n'était pas exactement, pas tout à fait ouvert au grand public. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais bon, moi j'étais à l'étage au-dessus, donc étant très pris par le parcours, j'ai pas non plus pu y passer beaucoup de temps, mais. Le peu que j'y ai passé, c'était vraiment très intéressant. Et plein, plein de stands sur plein de choses. Il y avait toute une salle sur la salle du libre. Donc tout ce qui était libre de droit, énormément de groupements qui venaient présenter des solutions informatiques, numériques, étaient très intéressantes. Enfin, c'était vraiment très, très riche, quoi.
Fait tout ça. Tu connaissais ça, toi, tu as déjà eu l'occasion d'y aller?
Alors, les rencontres de l'Orme, j'y suis allé l'année dernière. Je ne sais pas si tu y étais toi aussi, David, l'année dernière.
J'étais aussi en charge d'un groupe. Tu as dû me voir passer avec une pancarte.
J'y avais été l'année dernière. Ouais, j'étais resté un petit moment avec justement nos collègues qui étaient là pour la promotion des logiciels libres, etc., pour savoir ce qu'ils avaient, etc. Bon, on a discuté tranquillement parce que ça reste toujours un côté qui me plaisait. J'avais bien aimé le côté foire aussi. Ça fait un peu foire aux collègues qui viennent montrer des trucs, qui viennent montrer ce qu'ils ont fait.
Alors,
Il y a un peu
c'est
là
parfait,
le côté.
on est les rois de la transition parce
Je
que
sais.
c'est exactement ça que je voulais poser comme question parce que je suis toujours un peu le polémique de l'émission, moi. Et pour être allé plusieurs fois à Educatech, Educatis, comme toi, Seb, j'ai trouvé que c'était un peu le côté le foire et parfois ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire qu'il y avait plus de. Voilà, de commerçants, c'est normal, hein, attention, hein, c'est bien évidemment, c'est absolument important qu'ils soient là, mais le lien avec la pratique quotidienne était parfois un peu loin, quoi. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de techniques, beaucoup de démonstrations, mais dès qu'on parlait des usages, il y avait un peu moins de monde, voire parfois plus personne. Est-ce que c'est un peu comme ça, alors, ou est-ce que vous essayez quand même vraiment de relier au maximum, enfin, d'avoir vraiment une logique d'usage avant tout, quoi, hein, ce qui est vraiment notre quotidien?
Alors le ratio est nettement moindre. Alors moi j'ai fait pour la première fois Educatech-Educatis cette année. Alors ce que j'ai trouvé de différent avec les rencontres de l'Orme, c'est que le ratio stand d'entreprise et espace vraiment de démonstration pédagogique avec des élèves est vraiment inversé. C'est-à-dire qu'on a effectivement à l'entrée de l'Orme cette année plusieurs stands de fabricants, de solutions techniques, technologiques, robotiques, enfin vraiment assez riches. Hein. On avait même la MGEN, la GMF, on avait des stands assez pluriels, mais on avait beaucoup d'espace, quasiment l'équivalent, qui accueillait des élèves et des enseignants pour montrer leurs pratiques ou pour échanger leurs pratiques. Donc c'était très riche. Il y avait d'ailleurs beaucoup de conférences auxquelles je n'ai malheureusement pas pu assister. J'ai pu voir que celle sur le RGPD, qui était très intéressante, faire vraiment un point sur ce qui était possible et pas possible. Alors j'ai pas tout retenu, parce que c'était assez soutenu, assez technique. Mais je trouve que le ratio est un peu inversé par rapport à Educatech-Educatis, où là on a beaucoup plus de fabricants. Alors pour vous donner un exemple, hein, il y avait Manutan qui était là, qui avait donc un espace pour présenter le mobilier scolaire. Et ils ont, comme chaque année, hein, équipé toute une salle avec du mobilier modulaire, mobile, enfin vraiment un immense espace cette année. Qui a servi vraiment à toutes les classes qui sont passées. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y avait vraiment des choses très différentes qui étaient montrées. Il y avait de la danse, il y avait de la danse avec tablette, il y avait de la robotique. Et tout ça s'est fait dans cet espace. C'est-à-dire qu'on est quand même nettement plus axé sur les pratiques enseignantes que sur les solutions techniques.
C'est chouette, c'est chouette. C'est vraiment marrant tout ce que tu évoques parce que je suis. Voilà, tout le monde ne le sait pas et on s'en fout. D'ailleurs, je suis Yann de ma discipline et je reviens juste à l'instant, hein, hier, avant-hier, à notre séminaire national et on a parlé de RGPD, et de mobilier. Vraiment,
voilà.
C'est assez fou, c'est la question du mobilier. Je pense que Seb, il faudra qu'on en parle plus dans une prochaine émission, mais c'est
Écoute,
vraiment.
En plus, c'est drôle hein, que tu dises ça, mais moi, l'année dernière, mon gros coup de cœur, c'était sur le mobilier. Franchement, j'ai toujours été un peu sceptique sur les. Et puis, j'ai eu la joie de m'asseoir sur. Il y avait une conférence, etc. Il y avait un espace où il y avait ces merveilleuses chaises à roulettes avec tablette incorporée et tout. J'étais super sceptique, je me suis assis là-dedans. J'en voulais pour ma classe après. C'était.
Alors,
Voilà.
tu pourras
Il y a eu
venir à
ça.
l'atelier Canopée, il y en a.
Ouais,
Ah
je
ben
sais,
voilà.
mais je sais, ça je sais que vous l'avez, ça je sais. Il y a ça et les tables, il y avait des tables entièrement modulaires et après quand on revient dans sa salle de classe avec un mobilier qui a parfois 10 ans d'âge, ça fait bizarre.
Ce
Ça
qui est
fait
fou,
bizarre.
c'est que moi j'aimerais savoir un petit peu si ça va passer la mode, quoi, parce que voilà, c'est quand même, tu vois, les dernières mêmes périodes, on a parlé des escape games à gogo, on en parle encore un peu, mais moins maintenant. Là, on est sur le mobilier. Je veux dire, moi, je suis toujours un peu frileux sur l'effet de groupe où tout le monde s'empare d'un truc et ce qui reste quand même derrière. C'est-à-dire, alors autant pour le mobilier, je suis à peu près sûr que ça, il y a des trucs absolument géniaux à prendre. J'ai vu des choses, mais ça me fait. Moi aussi, c'est comme toi, hein, je rêve d'avoir un certain nombre de mobilier. Mais bon, il faut voir ce qu'il en est. Mais ouais, c'est marrant que tu dises ça, David, puisque vraiment, comme je te dis, on a parlé de RGPD, de PIX et de mobilier, quoi. Voilà.
Alors
Si tu
après,
veux,
le. Vas-y, vas-y.
vas-y, vas-y, David, je t'en prie.
Non, ce que je trouvais assez intéressant aussi, sur cette question de mobilier, c'est même pas tant le mobilier lui-même, hein, c'est ce qui avait été la thématique des Critech et des rencontres de l'Orme l'année dernière, c'était vraiment la forme scolaire. Et le mobilier n'est qu'une émanation, qu'une suite, en fait. Donc, entre ce qu'avait dit Vincent Fayet, ce qui avait été dit pendant la grande conférence à Écritech l'année dernière. Moi, je pense pas que ce soit une mode, puisqu'on voit que l'institution pousse beaucoup avec la mise en place d'Archiclass, par exemple, hein, qui est pas anodine, qui commence vraiment à essaimer beaucoup. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus, à juste titre, hein, parce que on parle pas que de mobilier, on parle vraiment, voilà, d'adapter l'espace scolaire aux pratiques qu'on y a. Donc, je pense que. Et puis en plus, il y a un magnifique petit fascicule hors série réalisé avec Christophe Caron là-dessus. Hein, je fais mon auto-promo.
Voilà. On va en
Et
parler conviction
après,
aussi, c'est
t'inquiète
bien, s'il te
pas. Ah, je fais du spoil, pardon.
plaît.
Mais je pense pas que ce soit vraiment une mode. Je pense qu'entre les fabricants, les institutions et les collectivités, il y a vraiment une espèce de synergie qu'il n'y avait pas il y a 3-4 ans, quand on a lancé les expérimentations Class Lab en art plastique. Et qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Ça a été des thématiques de plusieurs trames, en art plastique, en
Ah,
documentation,
complètement.
et je pense que ça va l'être de plus en plus. Moi, je pense pas que ce soit une mode.
Non,
Alors,
non,
complètement.
non, non, moi,
Non, mais franchement, je vais dans le sens de David et pour une simple raison, c'est que lorsque je me suis posé dans cette chaise, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je passe mon temps à faire tourner les gamins, à essayer de trouver une organisation dans la classe qui puisse, en pas trop longtemps, faire varier, changer d'un truc où j'ai besoin qu'ils soient tous près du vidéoprojecteur ou qu'ils soient près du tableau classique, etc. Ça répondait à une question qui me restait dans la tête en permanence et pour laquelle je n'avais pas la réponse. Voilà. C'est en fait que c'est vrai que ça répond aussi à une espèce de mouvance actuelle qui est de le rendognon tout le temps en permanence face au tableau. Voilà quoi, c'est
Alors
plus
attention, moi
compliqué.
je réfléchis toujours un petit peu par l'absurde ou en tout cas en faisant l'avocat du diable. C'est que je suis complètement d'accord avec vous. Il est bien mieux que la mode soit à la réflexion et à se démarquer des organisations sociales actuelles, comme tu viens de le dire, pour essayer de faire autre chose, parce qu'on sent bien que dans un paquet d'établissements, dans un paquet de situations de classe, ça marche plus. Et c'est très bien ça. Je dis juste que à l'inverse, il faut aussi réfléchir à ne pas vouloir changer pour changer. Ça me fait penser aux îlots, tu vois, il y a 4-5 ans, là, on a eu les îlots bonifiés qui sont arrivés en grande masse. Les îlots bonifiés, bon, moi, j'ai des fonctions où je me balade pas mal dans les classes pour faire de la visite. Y a une fois sur deux jusqu'à l'année dernière, je voyais encore des classes en îlots bonifiés qui ne servaient à rien ou si ce n'est générer du bruit et du bins, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ce qui
Tout à fait.
m'intéresse vraiment dans ces modalités, c'est justement le fait que ce soit modal et qu'on puisse changer vraiment en fonction, parce que c'est vrai que changer tous les jours ta disposition de salle quand tu peux pas le faire de manière aisée, c'est clair que c'est le bins. Et c'est ça qui m'intéresse là-dedans, dans la multimodalité de ce mobilier, quoi, clairement.
Ah, ça va avoir une classe modulaire, mais on peut pas plaquer du mobilier ou même des tablettes, hein, si on change pas déjà sa pratique. Donc,
Complètement.
je pense que ça vient après, en fait. C'est une espèce de réflexion globale. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est vrai que le numérique, c'est onéreux, on n'est pas toujours équipé, le BIOD, ça reste encore très exotique. Donc effectivement, hein, moi je pense que le mobilier, une fois qu'on a vraiment repensé et eu cette espèce de déclic, je pense que c'est le bon point de départ. Mais le départ, c'est la pédagogie, quoi. C'est repenser sa pratique, en tout cas adapter l'espace à la pratique qu'on voudrait avoir.
Tout à fait.
De toute manière, vu le coût que ça, enfin, j'ai un peu regardé le coût que ça représente. Bon, je vous parle pas pour une école primaire, mais même pour un collège ou quoi que ce soit, c'est quand même. Il y a forcément besoin d'une réflexion derrière et que ça soit s'appuie autre chose que sur le oh, j'ai vu ça, c'est sympa.
C'est ça.
C'est évident.
C'est évident, c'est évident. Bon, bah super, merci pour ce premier point. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, qu'on voulait aborder avec toi, puisque on a notre troisième e-teacher qui n'est pas là ce soir, qui fait que m'envoyer des textos en ce moment même, là, Jeff, en me disant branche-le sur le BIOD, branche-le sur le BIOD, branche-le sur le BIOD. Bon,
Pourquoi ne
David,
pas en
donc c'est
parler,
parti.
en fait?
Je te branche sur le BIOD. Alors, qu'est-ce que tu. Parle-nous du BIOD, de ce que tu as fait, de pourquoi, du comment. Allons-y, on t'écoute sur le BIOD.
Allez, go. Donc, j'étais pas tout seul, hein. Ça a été un projet qu'on a mûri après un écritech, justement, avec mon ancien collègue Brice Sicard, hein, qui travaillait sur Cannes, qui maintenant est IAIPR sur l'Académie de Créteil, et notre IAIPR, donc Josiane Rouge, IAIPR d'art plastique sur l'Académie de Nice et de la Corse. Et on s'est dit, voilà, on a des tablettes en classe, on n'est pas dans des déploiements massifs, hein, on a une petite flotte dans chacune des deux salles. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire après? C'est-à-dire qu'effectivement, on a 6 tablettes, 30 gamins, c'est compliqué à gérer, ça pose quand même des problèmes d'équité, on va dire, hein. Donc, on s'est lancé dans une espèce de réflexion autour de ce qu'on pourrait faire avec nos smartphones, puisqu'on était déjà quand même assez accro. Le but n'étant pas de les rendre encore plus accros, hein, mais bien au contraire d'avoir un usage un peu pensé, réfléchi, voire citoyen, on va lâcher les grands mots. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un smartphone dans le cours d'art plastique? Donc filmer, photographier, lire des QR codes pour accéder à de la ressource, se poser aussi la question de l'accès à Internet. Donc on avait déjà des bornes Wi-Fi sécurisées, quels étaient les protocoles avec les différents smartphones. Donc il y a toute une espèce de réflexion pendant une année qui a duré en 2014 et à la rentrée 2015, quand on est arrivé à un taux d'équipement des élèves assez important. Moi, j'étais sur Antibes dans un établissement, on dira normal, hein. On s'est retrouvé avec plus de 90% d'élèves équipés. Alors, on s'est dit, on y va. Les élèves non équipés, on leur prêtera les tablettes de la classe. Et puis, on se lance. Donc, mise en place d'un protocole, d'une charte d'usage, comment se connecter au réseau Wi-Fi sécurisé pour pouvoir justement régler cette question de l'accès Internet ouvert et trouver des applications. Équivalente, pas trop lourde, puisque tous les élèves n'ont pas forcément des smartphones avec des capacités monstrueuses de mémoire. Donc, on a cherché, on a passé un petit été très sympa avec des smartphones Windows, je me suis fait prêter des smartphones Android, des iPhones, pour trouver des applications gratuites et équivalentes. Donc, pardon, donc à la rentrée 2015, on s'est lancé sur les deux établissements avec tous les élèves. Alors moi j'en avais 800, mon collègue 500, donc on s'est lancé sur 1300 élèves d'un coup. On s'est dit on va pas faire sur une petite classe en saupoudrage, on va quitte à se prendre un mur, on y va direct. Donc on a pris de l'élan et on s'est lancé donc avec des chartes d'usage, une information aux parents, avec aussi et surtout l'appui des chefs d'établissement, puisqu'il a fallu faire passer quand même un vote en conseil d'administration.
CA, oui, bien sûr.
Voilà, et les choses se sont faites très naturellement avec des productions géniales, avec un vrai engouement de la part des élèves, avec une vraie réflexion, des vrais échanges. À savoir que nous, on avait proposé certain nombre d'applications, mais les élèves en avaient d'autres. Donc, on a mis en place dans nos salles respectives de quoi échanger avec les autres, c'est-à-dire un petit tableau où les élèves venaient noter le nom des applications qu'ils avaient trouvées. Donc, des échanges entre les élèves, quasiment pas de débordement. Enfin, je crois que le seul débordement qu'on a eu, c'était un élève qui était sur sa 4G à regarder ses mails. Donc, on n'était
Ouais.
pas non plus dans des usages juridiquement répréhensibles. Je suis désolé, hein, je sors d'une bronchite, donc j'ai un peu la voix de Barry
Je
White.
t'en prie. C'est bien, c'est
Et
bien.
donc, 2 années, donc la deuxième année, on s'est relancé encore, parce que ça avait très très bien fonctionné. On était très contents de ce que ça pouvait apporter. Et là, du coup, on s'est dit, allez. Chiche, on change le mobilier, on essaye de bricoler des salles modulaires, mobiles avec ce qu'on pouvait avoir. Donc, on a fait un peu de récup, on a eu un petit peu de sous de nos établissements respectifs. Et on a transformé nos salles en classe lab. Alors, deux classes différentes, deux politiques différentes. Alors que mon collègue Brice, vous pourrez retrouver tous les documents sur le compte rendu de ces deux années d'expérimentation sur le site art plastique de l'Académie de Nice. Lui avait une salle plus grande, donc plusieurs espaces bien différenciés, bien distincts. Moi, ayant une salle d'un seul tenant, j'ai plutôt opté pour des tréteaux, des planches, donc réflexion sur la taille pour que ça soit manipulable aisément par des petits élèves de sixième. Des petits espaces de coworking avec des petits poufs, des tables basses. Donc, on a essayé un peu, voilà, de fil en aiguille, d'enrichir un peu les pratiques. Quasiment plus de papier puisque tout était affiché en QR code, donc les élèves récupéraient tout. Ça, c'est vraiment devenu le cahier d'art plastique virtuel des élèves, qui n'a pas non plus éludé complètement le cahier de pratique. Hein. C'est pas parce qu'on parle de numérique qu'il n'y a plus d'autres pratiques. Ça s'est juste rajouté au reste.
Oh, bien
et
évidemment. Ouais.
Ça a sacrément enrichi les productions, les palettes de résultats. Enfin, ça a été vraiment deux années de super projet qui étaient aussi présentées, soutenues par la DAN de notre académie et par la CARDI de l'Académie de Nice. Donc, on a fait une fiche Experitech. Enfin, tous les documents peuvent se trouver en ligne. Voilà.
Donc aujourd'hui, ton bilan, il est vraiment, vraiment positif, presque, d'après ce que j'entends, à 100%. Il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu vraiment de réel...
Alors, le frein, il a été simple, hein, c'est très chronophage en préparation. C'est vrai qu'il a fallu quand même passer des heures et des heures à tester des applications, à chercher comment connecter un smartphone Android au portail captif de la classe, faire les documents pour les parents. Enfin, c'est très chronophage et ça demande énormément de temps. Heureusement, on était trois, hein, donc ça a vraiment été un travail intensif, mais mené à trois de front. Donc,
Ce portail captif, d'un point de vue un tout petit peu technique, c'est toi qui l'as mis en place ou c'est quelque chose qui vous a été livré par la DSI
en,
quelque chose,
en fait, toutes les bornes Wi-Fi installées sur l'Académie de Nice, hein, sont installées de fait avec un portail captif.
D'accord.
Donc c'est... Tablettes, moi, c'était déjà installé pour l'usage des tablettes pour se connecter à Internet. Donc, en fait, les élèves, on a un proxy à rentrer et on arrive directement sur le portail d'authentification du réseau, au même titre qu'un ordinateur fixe.
Hein,
donc voilà, c'est assez contraignant puisque c'est très facile. Moi, j'avais un iPad et un iPhone à l'époque, donc c'était très aisé sur ces appareils-là. Par contre, c'est un peu la découverte de la jungle sur des smartphones Android ou des smartphones Windows, mais ça marche très bien. C'est juste que j'avais pas, moi, l'habitude de ce type d'équipement, donc il a fallu un peu se faire la main là-dessus. Donc, ça a pris du temps.
Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, le bilan, il y a beaucoup de gens qui hésitent un petit peu à se lancer dedans, surtout pour s'y sortir portail captif, puisque finalement, c'est relativement rentré. Alors, je dirais pas dans les mœurs, mais des gens qui réfléchissent un peu sans aucun problème à se dire, OK, on va travailler avec le matériel des élèves, OK, on va fournir du Wi-Fi, ça, c'est facile à faire. Par contre, le portail captif, c'est compliqué parce que toutes les collectivités ne veulent pas le lancer. Donc, en gros, on a un peu l'impression que si la collectivité ne suit pas avec l'installation de ce portail captif, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut trop faire tout seul dans son coin. Pareil, c'est mon cas. Je parle là de mon cas. Moi, je fais du biode, mais je fais du biode en mettant une borne Wi-Fi dans ma classe et puis terminé, quoi. Il rentre un code et puis voilà. Et je suis complètement hors clou par rapport à la RGPD. On est bien d'accord et tout ça, quoi.
On dira rien. Alors, non, c'est effectivement, ça dépend beaucoup de la politique des collectivités territoriales et des DAN et des DSI de chaque académie. Hein. Moi, pour échanger avec beaucoup de collègues un peu partout en France métropolitaine et outre-mer, on n'est pas tous logés à la même enseigne, clairement. Après, je pense que les collectivités vont s'y mettre, puisque c'est quand même la réponse au manque d'équipement. Alors après, on parle de biode, on a tapé dans les smartphones parce que c'est le premier équipement que les élèves ont. Il y a plusieurs expérimentations qui se déroulent avec une ouverture aux équipements beaucoup plus hétérogène. On a des élèves avec des PC portables, avec des tablettes, avec des smartphones. Et là, va se poser vraiment la question de la ressource, puisque là, il faut de la ressource en ligne, type Geniali. Or, ça se complique grandement en termes de réseau. Hein. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du portail captif et de la Wi-Fi. C'est mieux d'avoir aussi de la super connexion qui envoie, hein, parce que...
Oui, il faut qu'ils soient tous connectés.
C'est ça. Donc, c'est un chantier, mais les collectivités territoriales, je pense, sont dedans. Hein.
Et globalement, c'est quelque chose, ouais, de ton côté, c'est plutôt des bien vus de par la collectivité. Parce que là, je sais aussi que c'est pas toutes les collectivités qui voient ça encore d'un bon œil, quoi. Hein.
Alors effectivement, hein, mais je pense que monter un projet pédagogique sous couvert de hiérarchie et de CARDI et de DAN et être capable vraiment d'expliquer la plus-value en termes d'expérimentation pour sortir un peu de toutes les expérimentations qu'on a tous fait, un peu sauvage, en disant allez, vas-y, sors-le, fais ta photo, va sur Internet, ça va nous éviter de nous trimballer en salle informatique puisqu'elle est déjà réservée. Ça, je pense que n'importe qui le fait, l'a fait, le fera. Je pense que voilà, en montant vraiment un projet pédagogique explicatif et justement pédagogique envers les collectivités, je pense que ça peut faire bouger des lignes.
Tout à fait. Bon,
Et
bah
est-ce que
écoute,
toi,
ma
tes
foi.
collègues à l'époque, ça a essaimé ou pas du tout?
Alors oui, pas totalement. Je pense que c'est comme avec les tablettes, hein. On a toujours 3, 4, 5 collègues qui. Donc ma collègue de musique de l'époque, enfin d'éducation musicale, mon collègue documentaliste, quelques enseignants de lettres. J'ai eu 6-7 enseignants qui étaient assez intéressés, qui sont venus d'ailleurs en classe voir ce que ça donnait. Après, je peux comprendre que le premier cours où on voit des élèves pianoter sur un smartphone, ça pique un peu. Et quand on est extérieur à ça, moi le premier, hein, je vous dis, la première heure de cours, ça a été l'enfer. Hein, j'étais persuadé qu'ils s'écrivaient des textos, alors qu'en fait, ils étaient en train de travailler. Je pense qu'on a une représentation sociétale de l'utilisation du smartphone qui est assez terrible. On a vraiment l'impression que quand on voit quelqu'un pianoter, il est en train de faire n'importe quoi ou de s'amuser, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça a essaimé un petit peu sur l'établissement. Alors après, j'ai un peu lâché l'affaire, parce que ça fait 2 ans que j'y suis plus retourné. Je pourrais pas vous dire maintenant si c'est devenu des usages pérennes. En tout cas, il y a énormément de collègues partout en France qui ont lancé des incubateurs, qui ont été, je sais que sur Poitiers, sur l'Académie de Strasbourg, à Olympe de Gouges, enfin, il y a plusieurs établissements vraiment qui se lancent. On a un groupe de discussion d'ailleurs biote sur le petit oiseau bleu qui s'enrichit jour après jour de nouvelles personnes. Donc, je pense que ça va prendre du temps, comme avec les tablettes. Il y a encore des gens aujourd'hui qui expérimentent, alors que ça fait 7 ans qu'il y en a. Mais il faut passer par cette étape-là, donc c'est très bien. Il faut expérimenter, il faut se nourrir de ce qui a été fait ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des plateformes qui permettent de contacter des collègues qui ont testé dans leur discipline. Et ce croisement de regard, je pense, fera un peu bouger les choses.
Je
Ça
pense d'ailleurs qu'il y a des gens qui vont passer directement au biote sans avoir connu les tablettes, en fait, puisque
C'est
c'est
possible.
long, c'est très long, c'est
C'est
pour ça.
possible.
Moi, j'ai eu les premières tablettes il y a 10 ans maintenant, on était pareil, on était incubateur, c'était Samsung Galaxy, c'est Tab 2 pour tout dire. Voilà, elles ont encore, elles marchent encore à peu près pour certains usages qu'on en fait, mais voilà. Et en fait, voilà, il y a des collèges qui commencent tout juste et qui se heurtent à des problèmes techniques qu'on a eu nous il y a 10 ans et qui du coup maintenant
Ça.
disent mais pourquoi on leur demande pas directement d'utiliser leur matériel quoi, ce qui était bien sûr inimaginable pour nous il y a 10 ans. Donc c'est assez rigolo et c'est pour ça que je pense qu'il y en a vraiment qui se disent et d'ailleurs qu'ils le font en toute illégalité hein, dans les formations biotes que je peux faire en rigolant je les taquine un peu en disant comme ça en disant qu'il l'a jamais fait. Je vois bien qu'il y en a plein qui le font notamment en lycée où ils ont vraiment besoin de ça parce qu'il y a beaucoup de matos. Ça fait bien longtemps qu'ils le font en se moquant de la régulation parce qu'ils répondent d'abord aux besoins urgents quoi. Voilà.
Ça. Après, effectivement, on est encore un peu en questionnement sur les ressources en ligne.
Ah, tout à fait.
On a beaucoup de documentation en ligne, on a quand même assez peu de sites de fabrication, surtout qui soient responsive design. C'est-à-dire qu'entre on peut faire sur une tablette, un PC et un smartphone, c'est pas la même. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on peut tout faire avec un smartphone? Je ne pense pas. Mais on peut déjà faire quand même vraiment pas mal de choses, quoi.
Ouais, en tout ce qui concerne quand même la vérification des acquis sur les quiz, les côtés un peu fun, tous ces trucs-là. Parce que si vous vous rappelez à l'époque des premiers TBI, on voulait nous vendre ces fameux boîtiers de réponse où on pouvait répondre trois pauvres touches ou je sais plus quoi là. Je veux dire, maintenant un smartphone fait ça bien évidemment avec beaucoup plus
C'est
de
ça.
choses et c'est donc si c'est quand même une sacrée évolution. Ben écoute, très bien. Merci pour ça. Et puis, Seb, si tu as d'autres questions sur ce dossier, à moins qu'on passe au
En fait,
dernier point.
non, mais en fait, moi, je me disais, si j'avais une question, ça serait, voilà, on y a répondu. C'était un petit peu, on a survolé. C'est pourquoi un usage pédagogique des appareils connectés des élèves. Et d'ailleurs, j'ai sous les yeux un magnifique petit fascicule, qui aborde le
Mince.
sujet.
Ah, oh, et ben alors c'est super parce que je pensais que peut-être on pourrait évoquer le dernier point de ton travail qui concerne justement les petits fascicules.
Mais vous êtes en Bluetooth, vous avez répété ça.
C'est pas possible dans les mois de la transition.
Si tu savais le temps que ça nous prend.
Ah ben j'imagine.
Bon, allez, sans transition, enfin aussi avec transition, pour le coup, une des raisons pour laquelle on a souhaité que tu viennes ici ce soir, c'est pour nous parler bien sûr de tes petits fascicules. Donc bah, peut-être commencer par raconter aux auditeurs en quoi cela consiste, d'où ça vient, pourquoi, quelle idée, quelle modalité, quelle parution. Voilà.
Waouh, alors, oulala, alors d'où c'est venu? Alors en fait, ayant été dessinateur et graphiste, j'ai toujours eu tendance à fabriquer des visuels, à poser mes idées un petit peu sur de la documentation et à le mettre en ligne sur un fameux réseau social pour échanger et avoir des réactions aussi. Et puis un jour, je me suis dit, ce serait quand même dommage de pas de tout perdre, hein, mais ce serait bien de tout compiler, parce que j'en avais beaucoup sur plusieurs thématiques. Donc, venant un peu du livre et du jeu, donc du monde un peu de l'édition, je me suis dit, bon, allez, Book Creator, on va compiler ça et puis on va le mettre un petit peu en ligne. Alors, au début, c'était très, très, très bricolo, hein, c'était posé sur une Dropbox et mis à disposition de ceux qui voulaient. Et j'ai été contacté par Christophe Gilger, aka Clastis, hein, que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. Qui m'a dit, si tu veux, je les héberge sur Castis. Donc, je lui ai dit banco, hein, c'est parti. Donc, s'en est suivi une espèce de frénésie, puisque il y a une seule politique, c'est qu'il n'y a pas de politique éditoriale. Ça sort quand c'est terminé, ça sort. Donc, on n'est pas une maison d'édition. Enfin, je ne suis pas. J'ai évité de parler de moi à la troisième personne. Je ne suis pas une maison d'édition. On le fait. Au début, je l'ai fait de manière personnelle, et puis ensuite, Christophe m'a proposé. Une thématique et de travailler avec moi. Donc, s'en est suivi notre première collaboration et ensuite les équipes se sont formées. Des gens sont spontanément venus me dire, nous, on voudrait bien en faire un sur le numérique dans notre discipline. Et puis, ça a essaimé, ça a débordé et c'est tant mieux. Et puis là, aujourd'hui, on est à quoi, 14-15 mois d'existence, on est déjà à 23 numéros, ce qui est un beau score. Alors, j'avoue que depuis plusieurs semaines, c'est un petit peu plat. Mais ça va venir, hein, ça va venir, j'espère. Donc en fait, comment ça se passe? Alors, le principe pour moi, c'était pas de faire de la littérature scientifique, c'était cette espèce de. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de collègues, pour avoir beaucoup de formations dans nos locaux, qui butent un peu sur la grosse littérature scientifique, qui est ultra intéressante, mais qui est peut-être dure d'approche et c'est dur de créer de l'appétence quand on a un truc assez technique, assez pointu face à soi, il semblait qu'il manquait ce petit marchepied qui permettrait d'envoyer les gens, de créer cette appétence pour de la littérature plus scientifique, ou de donner même des exemples et des ressources. Donc un format très court avec peu de texte qu'on peut lire dans les transports en commun sur un smartphone et si possible qui change visuellement de ce qu'on peut trouver pour l'instant sur le marché. Donc certains diront que c'est peut-être trop coloré. Bon. Je vis avec, hein, je me suis un peu fait plaisir aussi graphiquement. Donc c'est parti de cette idée-là, hein, de faire quelque chose d'assez court, d'impactant visuellement, et qui permette d'aller voir des ressources un peu plus pointues si on en a envie. Donc c'est une espèce de marchepied qui permet de toucher un peu une thématique, donc d'aller défricher rapidement et de renvoyer vers des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus ardues, une fois qu'on est bien au courant de la thématique abordée.
Donc,
Donc
on est
voilà, c'est
d'accord
parti de
que
ça.
c'est une initiative qui est purement personnelle de ta part, qui n'est
Ah,
commandée
tout à
par
fait.
quelqu'un. Voilà. Donc,
Ah
c'est
non,
marrant parce
non.
que moi, quand j'ai découvert ça, justement, en invitant notre collègue de la Haute-Savoie, enfin, en tout cas de 74, je crois, hein, qu'il est, hein, c'est ça. J'ai trouvé que cette initiative ressemblait à un fait assez en étant toute différente, mais assez. Ressemblait un peu à iTeachers, quoi, dans le sens où, pareil, nous on a commencé à podcaster, à faire de la veille. C'est assez proche de nos missions professionnelles, mais dans une démarche complètement amateur, en tout cas, et hors de notre champ de professionnel, avec une liberté de ton qu'on souhaite garder, en tout cas, quoi. Donc, est-ce que toi aussi, parce que je connais pas tous les fascicules, tu t'autorises parfois peut-être un peu un certain regard subjectif sur ton métier quand même, ou est-ce que tu restes vraiment dans de l'information pure sans aucune volonté de critique ou de donner son opinion par exemple?
Je pense que l'opinion elle est surtout dans le choix des thématiques à aborder, hein. Faire un double numéro sur le biode avant que la loi change, c'était déjà un parti pris de ma part. Non, après en termes de contenu, il n'y a pas de critique particulière, c'est vraiment de l'information. Ça n'a pas vocation à être. C'est pour ça que c'est gratuit. En fait, c'est une espèce de compilation de documents à la base. Et c'est devenu ensuite un travail beaucoup plus collaboratif avec des collègues. Et justement, moi, je leur laisse à ces collègues la liberté du contenu. C'est vrai que des équipes se sont montées. Hein, j'espère avoir le temps à la fin pour faire mon petit listing de remerciements type Festival de Cannes. Prévoyez 5 minutes, vous êtes bien avec moi. Et moi je leur dis, hein, voilà, il y a quelques contraintes, 6 pages, peu de texte, de la ressource, mais après je m'occupe vraiment en ce moment que de la mise en page. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que j'ai un peu pas lâché prise, j'ai pas lâché le bébé, mais c'est intéressant aussi de voir que la manière dont les autres peuvent s'en emparer pour parler de ce qui les touche, de leurs pratiques à eux, d'exemples qu'ils ont pu voir, tester. Enfin, c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment deux périodes bien distinctes, hein, celle où j'étais un petit peu tout seul à le faire un peu dans mon coin. Et arrivé au bout de 6-7 numéros, j'étais à court d'un... Je n'avais plus rien à dire, hein, j'avais presque tout dit, hein, j'étais à fond. Donc du coup, ce sont les collègues qui ont pris le relais et on a une espèce de deuxième saison qui s'est enclenchée et qui va reprendre très bientôt, je l'espère.
Aujourd'hui.
C'est un petit piège hein, quand même, tes petits fascicules, hein, je te le dis gentiment, mais c'est-à-dire qu'on est là, on arrive, c'est bien, ça j'aime bien, parce que pour le collègue qui a, justement, tu voulais créer de l'appétence, le collègue qui se méfie pas, il se dit, oh, ça fait 6 pages, ça fait 7 pages, c'est pas long. Et puis alors, tu ouvres certaines pages et puis tu vois, oh, 3, 4 QR codes, à quoi ça renvoie? Et puis tu finis par t'apercevoir que ton petit truc qui fait 7 pages, il t'ouvre sur tout un pan et sur toute une série de ressources ou d'autres documents qui débordent complètement. T'as un objet multimédia, mine de rien, qui est imprimé sur du papier. Et ça me plaît beaucoup.
Aujourd'hui, est-ce que tu as des données chiffrées sur la diffusion, sur le nombre de téléchargements, de lectures
Et à plus de 25 000, donc c'est assez incroyable. Hein. Je ne reviens pas sur ce qui me fait surtout plaisir, c'est le retour qu'on peut avoir sur les réseaux. Là, par exemple, après, le format est critiquable, hein, on pourra encapsuler de la vidéo. Effectivement, des collègues me disent, mais je le dis sur mon smartphone, comment je fais pour flasher QR code? Du coup, il faut que j'ai le téléphone sur la tablette ou sur l'écran. Alors, effectivement, il y aurait plein de manières de les améliorer. Un collègue me dit, je ne peux pas l'imprimer, je ne peux pas les imprimer en couleur parce que sinon, je tue l'imprimante de l'établissement en 2-2. Donc, il y aurait plein de choses hein, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, hein, mais qui sont peut-être un peu longues à mettre en place maintenant que j'ai pris un peu mes habitudes. On va y penser, la forme va évoluer, de toute façon elle évolue entre les premiers numéros et les derniers, il y a une forte évolution même de contenu et de forme, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de QR codes qu'il n'y en avait avant. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont à repenser. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est le retour positif que je peux avoir sur les réseaux sociaux, avec plein de gens qui se proposent, avec plein de gens qui encouragent, beaucoup de sympathisants. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que voilà, la majorité a bien compris que ça ne se veut pas une littérature scientifique ou institutionnelle. C'est une initiative qui enrôle de plus en plus d'équipes enseignantes, pardon, mais qui a plus vocation à rendre compte de certaines pratiques que de les expliciter de manière scientifique.
J'ai une autre question un peu polémique encore qui découle. Est-ce que tu es formateur ou est-ce que tu as été formateur dans ton académie?
Ah oui.
Bon, ça va pas. Donc, je le suis aussi, voilà. Et je me pose en fait un peu cette question en ce moment en disant, est-ce que... On sait que les limites de la formation institutionnelle, on connaît les limites des formations, des catalogues de formation, des candidatures individuelles désignées, on connaît tout ça, on connaît ses limites, on connaît ses points forts, mais on connaît aussi ses limites aujourd'hui. Et je trouve personnellement qu'il y a de plus en plus une certaine méfiance ou défiance à l'égard de ces formations et de plus en plus de collègues qui se tournent en fait vers de la formation entre pairs, comme ça, ce qui pour moi est une énorme source de travail, ce qui est absolument exceptionnel. Mais malheureusement, en étant aussi en train de dire que la solution, ou en tout cas la réalité du terrain, elle est plutôt vers ces pratiques de professeurs qui font ça en plus, en parallèle, et non plus vers des formations institutionnelles pour lesquelles les gens ont peut-être trop soupé, des modalités connues, et qui se disent « ouais, c'est bon, ça va être encore, on va nous faire mettre en groupe, nous faire faire un PowerPoint ou un truc, un poster. » Voilà. Et donc, bon, moi, je suis dans le même cas que toi, c'est-à-dire qu'on fait du podcast, on écrit aussi à côté, on est aussi formateur. Donc, je me demande, en fait, si on n'est pas un peu schizophrène aussi parfois et qu'on se tire pas un peu aussi une balle dans le pied quand après, on doit refaire un exercice de formation plus traditionnel, quoi. Tu vois,
effectivement, j'entends bien cet argument. Effectivement, ça pourrait être pris comme plein de collègues qui s'auto-forment sur leur temps personnel, qui pourraient en télécharger certains. Après, effectivement, c'est un effet rotor du truc, hein. J'avoue que je n'y avais pas pensé avant, mais j'espère que ça ne participe pas à la défiance globale qu'on peut retrouver chez nombre d'enseignants et de collègues sur la formation. Après, moi, ça me questionne aussi sur, on va faire un peu de polémique, hein, sur les contenus de formation qu'on peut trouver. Hein. C'est très hétérogène, il y a des choses ultra pointues. En tout cas, ça n'a pas pour but de
mettre en concurrence.
Voilà, de mettre en concurrence ou de mettre à bas le discours qu'on peut retrouver en formation. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est des fois de voir des collègues qui m'envoient une capture d'écran ou une photo prise pendant les formations ou au moment où ils présentent des ressources, bah, ils présentent aussi un petit fascicule qui touche à la thématique abordée. Moi, je pense que ça peut être un plus. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est une espèce de cuisine, hein. La sauce peut prendre, elle peut ne pas prendre en formation. Bon.
Si demain, on te demandait d'intégrer ce travail sur les petits fascicules d'une manière officielle dans ton métier de formateur, est-ce que tu le ferais ou est-ce que pour toi, ça doit rester quelque chose dans lequel tu restes le plus libre possible, même sans forcément t'imposer justement un contenu éditorial ou une forme que tu ne souhaiterais pas, vraiment juste en disant bah, « tiens, ça serait bien que ce soit estampillé, par exemple, produit canopé de ta région, je ne sais pas, est-ce que ça te plairait ?» Alors, peut-être en t'apportant des moyens, tu vois, en plus, hein, pour le faire, je ne sais pas, ou est-ce que tu souhaites rester un peu dans cette indépendance-là que tu as aujourd'hui ?
Non, moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est le… En tout cas, c'est un format qui me convient. Je le fais sur mon temps personnel. Alors après, effectivement, si on me missionne pour fabriquer de la ressource, ce qui n'est pas encore le cas, hein, mais moi je suis vraiment dans les ateliers, pas dans les services édition de Réseau Canopé, mais je pense pas que ça serait très intéressant, en tout cas personnellement pour moi. Moi, ce qui me fait très plaisir, par exemple, là, c'est de voir les petits. J'ai vu ça il y a quelques jours là, les petits cahiers pédagogiques. Je trouve ça génial parce que du coup, alors, je j'ai aucune prétention. Hein, je dis pas que l'un est lié à l'autre. Hein, mais de voir que certaines institutions, même institutions entre guillemets, hein, se mettent vraiment à repenser les formats, je trouve que c'est très intéressant parce que ça augmente l'offre disponible pour les collègues. Alors après, moi, personnellement, si on me proposait dans une maison d'édition publique ou pas de me lancer dans un travail éditorial, je ne pense pas que je signerais. Hein. Je pense que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais dire d'intéressant. Maintenant, je crois que mon travail, il est plus dans le laisser la parole aux collègues et aux équipes de collègues qui ont des choses différentes à dire et qui me permettent moi aussi d'apprendre plein de trucs intéressants. Donc, c'est un format qui me convient bien. Après, effectivement, c'est chronophage, ça me prend du temps sur ma vie à l'extérieur du travail, mais bon. Voilà, il faut réussir à gérer son temps, mais voilà, c'est vraiment une manière de travailler qui me convient.
Bon, bah écoute, super, merci pour cette réponse. Seb ?
Non, mais en même temps, je feuillette, j'apprécie les illustrations et le travail qui est derrière. En plus, ça donne une unité graphique à l'ensemble, et j'aime bien l'idée que tu aies initié ça, quoi. C'est, même si maintenant, tu vas peut-être pas mettre un pas de côté, parce que c'est d'autres collègues qui vont apporter des ressources que tu mettras en page, franchement, c'est tout à ton honneur d'avoir réussi à lancer, je sais pas, un mouvement, c'est un grand mot, mais cette espèce d'idées qui pourraient continuer tranquillement sans que toi, tu sois derrière à apporter de la ressource, mais à mettre simplement ta parole. Franchement,
Bah, c'est
c'est ce
très
que je te
gentil.
demandais tout à l'heure, tu vois, pour le biode, si ça avait essaimé, à mon sens, là, tu essaimes d'une autre façon. C'est, tiens, les collègues, vous avez peut-être des trucs à dire, mais venez, moi je les mets en page. Voilà les contraintes, venez, on les met en page. Et pour reprendre ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est vrai que c'est ce qu'on essaie d'un peu de faire. C'est-à-dire, ben, si vous avez un truc à présenter, vous avez fait un truc de votre côté, venez, on en parle entre nous, c'est tranquille, vous nous dites ce que vous avez fait et on fait une émission comme ça. Donc,
En tout cas, c'est quand même assez. Oui, parce que tu parles de 25 000, 25 000, enfin une audience de 25 000 personnes. En tout cas, beaucoup de fans aussi de followers sur Twitter, là, hein, plus de 4 000 a priori. Donc c'est quand même. Ah, c'est pas encore Katy Perry, c'est sûr, mais
Ah, on est loin, on est loin.
c'est quand même dans le microcosme de notre métier. C'est plutôt. Tu serais quand même au niveau des rockstars, là, je veux dire. Hein, c'est quand
Oh,
même
ça,
pas
je
mal.
sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des gens critiques, hein. C'est toujours intéressant d'avoir aussi des retours qui sont des fois assez questionnants sur la forme, le format, les choix graphiques. Après, moi, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité, hein, entre e-teachers, Nipédu, les petits fascicules et plein d'autres initiatives qui existent. Je pense que c'est un grand mouvement. Après, chacun utilise le média qui lui sied le plus. Effectivement, moi, le graphisme et l'édition, même numérique, c'est de là d'où je viens. Hein, donc, moi, ça m'a paru beaucoup plus naturel que faire du podcast ou de la capsule vidéo, mais je trouve qu'il y a vraiment un grand mouvement où on a de plus en plus d'enseignants dont la parole est libérée et qui ont des facilités via les réseaux sociaux à échanger, à mettre en ligne, pas forcément pour se faire connaître, mais
Tout
pour
à
faire
fait.
connaître leur pratique, quoi.
Et le nombre ouais, de collègues qui produisent. Voilà, qui vendent même hein, pour certains, hein, en étant tout à fait conscient de ça. Il y a un site anglophone qui s'appelle Teachers Pay Teachers, je crois, un truc comme ça, qui est vraiment très connu. Où il est tout à fait possible de vendre ses productions, souvent à des prix modiques, mais voilà. Une fois, on avait eu un collègue d'anglais de Rennes qui faisait les tutos de Huitoto, qui continue à faire énormément de vidéos YouTube, qui a des scores, mais absolument hallucinants de nombre de vues. Enfin, voilà quoi. Hein, c'est super parce que ça prouve que ça plaît et que ça va même au-delà d'ailleurs du premier public concerné, quoi. Voilà.
Après, effectivement, on se pose la question de est-ce qu'à un moment ça n'interfère pas avec la formation plus traditionnelle. Je pense qu'il faudrait voir enfin, dans une année ou deux. Moi, je pense pas, mais c'est un risque possible.
Moi,
Donc, je pense que ça se rajoute en fait.
je me mets en mode complètement là, citoyen, pas fonctionnaire, et de jeudi soir à 21h49. Moi, je pense que c'est la solution, en toute honnêteté, puisque et certains IPR qui sont aussi en mode off à 21h50, quand on en discute, disent qu'ils en sont tout à fait conscients que les pratiques aujourd'hui, les gens s'auto-forment de plus en plus, et ils s'auto-forment parce qu'ils ont l'impression, justifiée ou non, de ne pas trouver suffisamment dans ce qui leur est proposé de manière institutionnelle. Alors, des fois, c'est pas justifié, je suis tout à fait d'accord. Des fois, à mon avis, ça l'est. Il y a un peu de mécontentement facile, si je puis dire. Voilà. Et voilà, en tout cas, je pense qu'on devrait arriver peut-être à faire ce qu'on est en train de faire en ce moment même pour des vrais collègues et pas faire venir des collègues des fois. Sur des journées de formation quand ils viennent de très très loin pour des contenus médiocres ou en tout cas qui valent pas. Enfin voilà quoi, il y a d'autres moyens qu'il faut développer quoi.
Il y a vraiment des contenus très hétérogènes de formation. Hein. Moi, le premier, je ne peux pas dire que toutes les formations que j'ai pu assurer étaient fantastiques.
Évident.
Voilà, bon, bah, après, c'est aussi une autre manière de faire. Moi, en tout cas, Twitter, ça m'a vraiment permis une vraie ouverture. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la salle des profs, pas idéale, hein, parce que bon, il y a à boire et à manger aussi, mais en termes d'échange de pratiques, de multiplicité, ça peut même des fois faire peur, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, il faut réussir à faire un tri. Il y a des choses super intéressantes, applicables, d'autres qui sont juste intéressantes pour la culture personnelle. Voilà, moi, ça a vraiment été un grand bond en avant, hein, pour faire une petite image un peu politique. Ça a été un grand bond en avant pour moi, en tout cas.
Ce qui est absolument génial dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est ce que je dis souvent à mes étudiants.
Je
Ah,
crois
on l'a
qu'on a
perdu.
perdu Guillaume. Ça, voilà. Donc le temps que je ne saurais terminer la phrase de Guillaume, malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais
C'est-à-dire qu'en
rajouter?
fait, on a une.
Ah, Guillaume, s'il te plaît, si tu peux reprendre ton
Ça y
élan
est?
verbal, parce
Ouais,
qu'en
je
fait,
suis
je t'ai
dégoûté.
perdu pendant ce temps-là.
Ben, je sais. Et voilà, j'étais en train de dire que ce qui est absolument génial, c'est comme je dis à mes étudiants, c'est-à-dire que on a énormément de ressources, en fait. Il faut faire des choix. On a souvent l'embarras du choix, comme on dit. Et ça se poursuit, en fait, avec ces ressources numériques, ces échanges qu'il y a en ligne. Et justement, ça donne à penser, en fait. Parce que souvent, les jeunes collègues ont besoin de certitudes dès le début, voudraient des manuels tout prêts, voudraient tout, tout prêt. Et en fait, non, on le sait bien que dans le métier, c'est pas possible. Et justement, ça donne encore à penser et à réfléchir et à se mettre dans cette difficulté qui est de qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est moins bien pour moi, qui sera aussi peut-être bien pour d'autres, etc., etc. Et ça, c'est super, vraiment, vraiment. Donc, merci pour ce travail, David.
C'est très gentil, merci à vous.
Alors, tu avais des noms à évoquer, je crois. Donc, vas-y, si tu veux faire.
Oh, fais-toi plaisir, vas-y.
Vas-y,
J'ai une
vas-y.
petite liste. J'ai une petite liste. Non, bah, ce sont toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création et la réalisation de numéros. Donc, bah, Christophe Gilger, hein, Castis, pour et l'accueil et l'hébergement de tous ces petits fascicules. Bah, mon ancienne IAIPR, Josiane Rouche, et mon ancien collègue Brice Sicard, parce que bah, sans eux, il n'y aurait pas eu de point de départ, donc je n'en serais pas là aujourd'hui. Et ensuite, toutes les équipes et les personnes qui ont participé, donc toute la team Yann Lettres, donc Cyril Mistro-Rigaud, Greg Devin, Lionel Viguier pour le numéro sur les lettres, Jean-Paul Delbrayel pour le numéro sur les médias scolaires, Nicolas Lemoine pour, et avec Christophe pour les deux numéros sur les mathématiques, la team EPS, donc Julien Tixier et Mathieu Desjean, Marianne Dupuis et Johnny Eisenhower pour la team lycée pro, Christophe Caron aussi, Archiclass, pour la confiance qu'il m'a faite en me permettant de faire le hors-série Archiclass. Bah, tous les sympathisants, toutes les personnes qui suivent de près ou de loin, que ce soit dans la bienveillance ou dans la critique. Et puis aussi ma femme qui me permet, ma merveilleuse femme qui me permet de prendre un peu de mon temps personnel pour travailler le soir là-dessus. Voilà.
Oh là
J'ai fait
là,
le tour.
que je te comprends. Eh ben, merci, merci pour tout ça et merci à tous ces gens qui ont effectivement participé. Et j'espère qu'il y aura d'autres, bien évidemment, d'autres numéros. En tout cas, nous, on continuera de les relayer et d'en parler le plus possible pour
Ah ben, c'est super. Merci à vous. Et puis moi, je continuerai à être un auditeur
que.
actif.
Au
Voilà,
plaisir
super.
de se croiser. Vas-y,
Alors,
Stanley.
avant de conclure, n'oubliez pas qu'il y a l'intégrale des petits fascicules, hein, qui est sortie et c'est un beau bébé. Donc franchement, si
Ah,
vous avez loupé
c'est
des numéros, allez-y, faites-vous plaisir.
un peu lourd, hein. C'est 160 pages, donc ça doit peser un petit âne mort, hein,
C'est
mais
un petit
effectivement,
âne
oui,
intéressant.
un
ah
petit âne mort
oui,
numérique.
tout à fait.
David, si on veut te suivre sur tes différentes activités, quels sont les meilleurs moyens? Quel est le meilleur moyen, peut-être?
Alors, si vous êtes en local sur Nice, bah, vous êtes les bienvenus à l'atelier Canopée 06 qui se trouve sur le site du rectorat, en Haute-Cimier. Pour tous ceux qui sont, celles et ceux, pardon, qui sont un peu plus loin, bah, le plus simple, c'est Twitter, hein. Donc, il y a deux comptes. Il y a le compte des petits fascicules. Donc, c'est arrobase les petits fascic 1. Sinon, vous tapez les petits fascicules et normalement, vous devriez tomber dessus. Ou sinon, mon compte perso, David Cohen, Arple, ARTPL. Tout attaché en minuscules.
Eh bien, c'est super. Seb, si on veut te joindre, tu nous redonnes ton Twitter.
Alors, si vous voulez me joindre et que vous êtes en local, eh bien, vous allez me retrouver aux ateliers Canopée bientôt. Sinon,
Au
plus
stand café.
généralement, ouais, j'espère bien, hein. Sur Twitter, c'est le @stuteur, Stuteur. Et toi, Guillaume?
Eh ben moi c'est toujours le truc inchiable là, Will Teach, donc c'est Will comme le début de William, parce que Guillaume en anglais ça veut dire William, mais bref, en tout cas Will, WILL, l'underscore et Teach, voilà.
N'oubliez pas le compte aussi, e-teachers FR, et on a rajouté le FR parce que sinon c'était déjà pris sur Twitter.
En tout cas, nous, on va se revoir bientôt. On vous dit pas quand, parce que nous aussi, c'est pas toujours évident de caler si régulièrement que ça. Avec une prochaine émission vraisemblablement en mode classique, avec le retour de notre Jeff National qui est bien pris en ce moment. On lui souhaite bien du courage pour toutes ses activités. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Voilà.
Eh ben, un petit coucou à Jeff, au passage.
Eh ben, on lui le fait. On te fait une bise, mon Jeff. On fait aussi une bise à notre autre Seb américain qui, malheureusement, cette année, ne peut vraiment pas être avec nous parce que, voilà, New York, il y a un petit décalage horaire et ses horaires ne lui permettent pas de prendre sur sa pause déjeuner pour pouvoir être avec nous. Donc, on le voit moins, mais on pense toujours à lui. Il fait toujours partie intégrante de l'équipe. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt. Merci.